Bonjour à toutes et à tous. Encore être là, de respirer, c'est une vraie grâce chaque jour pour ce que Dieu nous donne, être reconnaissant, combien c'est glorieux. En tout cas, très heureux de vous voir encore ce matin. Hier, donc, on était ensemble avec certains et ce matin encore. Donc, le sujet que je vais toucher aujourd'hui, c'est connais-tu Dieu ? Donc, ça sera. Ou c'est quoi connaître Dieu ? Donc, ça sera mon sujet ce matin. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Merci parce que tu es Dieu et Seigneur. Tu es le premier et le dernier. Personne n'est égal à toi. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est notre Père. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Que chacun d'entre nous, nous vivions ce que tu avais préparé avant la fondation de la terre pour ce jour. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare liées les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le sang précieux de Jésus sur chacune de nos vies. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur. Merci pour la foi que tu animes, que tu ouvres, que tu nous fasses connaître le secret qui est caché dans ta parole. Ouvre mon intelligence et notre intelligence ensemble. Seigneur, c'est toi qui fais le reste, Seigneur. Je n'ai rien à leur donner si ce n'est ce qui vient de toi. Fais-moi grâce et fais-nous grâce ensemble. Je bénis les moindres des plus petits aux plus grands, aux plus jeunes, aux plus vieux, que personne ne soit privé de ce que tu avais préparé d'avance pour aujourd'hui. Merci. Nous mettons nos vies et nos familles respectives sous le sang précieux de Jésus et nous croyons que tu entends nos prières et de ce que tu nous exauces. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est quoi connaître Dieu ? Est-ce qu'on connaît véritablement notre Dieu ? C'est ça ma question. Bibliquement, la connaissance de Dieu est plus importante que tous. On dit souvent, n'est-ce pas ? On dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais la crainte elle-même, d'où elle vient ? Elle vient de la connaissance de Dieu. C'est pour ça, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, oui, mais on craint ou on respecte quelqu'un quand on le connaît. Parce que le mot craindre, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est respecter Dieu, connaître dans ce qu'il est. Donc, avant toute chose, avant de le craindre, il faut le connaître. Et donc, c'est pour ça, c'est le départ de tout, c'est connaître Dieu. C'est Jérémie qui nous dit que ceci. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, si on peut projeter ça. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24 nous dit ceci. « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de la... » merci. « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. » C'est incroyable. Il dit « Celui qui veut se glorifier... » Qu'il se glorifie pour une seule chose, d'avoir l'intelligence de le connaître. Moi, qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel déclare, or le temps vient, déclare l'Éternel, où moi j'interviendrai contre ceux qui sont circoncis seulement dans leur cœur, moi je dirais, ici il dit dans le corps, puisque c'était dans l'Ancien Testament. En tout cas, ce qui est intéressant, que les gens ne se glorifient pas d'autre chose, donc il nous dit ce texte. Au verset 24, dans la traduction que j'ai, c'est « Mais que celui qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis celui qui exerce la bonté, le droit et la justice. » Est-ce qu'on le connaît, on le voit là ? Qui se vante d'être assez intelligent pour me connaître. En effet, moi le Seigneur, je travaille pour établir la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc, ces trois dimensions, on le retiendra. Donc, le connaître dans ces trois dimensions, c'est Dieu lui-même qui dit, voilà, vous devez me connaître dans ma bonté, dans ma droite, dans le droit et dans la justice. Alors, malheureusement, le monde valorise plutôt la richesse, la sagesse humaine, le pouvoir, le bien-être, la connaissance humaine, les études. On a plus de respect et de recherche à cela, mais Dieu nous rappelle que la vraie gloire se trouve dans le fait de le connaître. C'est ça donc la profondeur de ce que Dieu souhaite. Souvent, les gens mélangent le mot « connaître Dieu » et « croire que Dieu existe », vous savez ? Parce qu'ils pensent qu'il existe, alors ils disent « Ah, je crois en Dieu ». Mais ils croient à son existence, pas, ils ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que Jacques nous dit ceci. Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit « Les démons croient qu'il existe et ils en tremblent ». Donc, de croire que Dieu existe ne veut pas dire le connaître. Ok ? Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, il dit, Paul disait ceci, « Je considère toutes ces réussites comme des pertes comparées à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Vous vous rendez compte ? Toute la richesse, toute la gloire qu'il peut avoir ici-bas, il dit, « Mais écoute, je considère ça comme une perte face à la connaissance de Jésus-Christ. » Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, qu'il dit ça. Dans Osée encore, il nous dit ceci, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi ? La connaissance. » Amen. Donc, notre problème, c'est que nous adorons l'idée qu'on s'est faite de Dieu. Chacun en a nos idées. Je pense, le français pense que Dieu a un béret avec le pain sous le bras. Ça, c'est mon imagination. Mais en tout cas, chaque peuple et chaque nation a une idée. Donc, les gens adorent l'idée qu'ils se sont faites de Dieu. Mais qui est-il vraiment ? Que devons-nous savoir de lui ? Certains même pensent que Dieu évolue avec le temps. C'est pour ça, souvent, les gens nous disent, « Oh, tu sais, ça, c'était à l'époque. Maintenant, non, Dieu quand même. » Alors, on veut lui faire évoluer avec notre civilisation, avec notre civilisation pécheresse, on veut lui coller nos idées en nous, et on dit, voilà, ce Dieu que nous adorons, c'est ça. C'est une idole, en fin de compte. C'est pour ça, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il nous dit ceci, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce Dieu ne varie pas avec le temps. Ce Dieu ne se modernise pas avec le temps. Amen. Hier, je partageais sur le jeûne. Il y avait des gens qui me sont venus me dire, tu sais, ça, c'est bon, c'est dans l'Ancien Testament, hein, à l'époque, donc, dans une église, quand j'ai prêché, ils m'ont dit, tu sais, le jeûne, quand même, bon, hein, tu sais, c'est dur. Surtout, tu te rends compte, moi, j'ai une maladie, je ne peux pas jeûner. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit, non, non. Alors, hier, j'ai expliqué. Vous pouvez avoir des problèmes de santé, vous pouvez quand même jeûner parce que Dieu ne se trompe pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la réponse à toutes les questions que tu peux te poser. Donc, ce n'est pas une idole à qui on a affaire. J'aime ce psaume 50, verset 21. Il dit ceci. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. C'est incroyable. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc, ça veut dire, souvent, on lui a dicté notre façon de voir et notre nature pécheresse, on lui a collé dessus. Donc, nous avons humanisé Dieu, nous lui avons attribué les sentiments humains touchés par le péché, c'est ça notre problème. Paul disait, il n'y a rien de bon en moi. Comment je peux attribuer, donner Dieu à le faire à mon image et dire qu'il n'y a rien de bon en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon en vous ? Hier, j'ai posé la même question. Souvent, les gens disent, quand même, Tef, j'ai un peu de bon en moi. Je peux te garantir, bibliquement, il n'y a rien de bon en toi. Tu sais, c'est qui dit ça ? C'est dans Romains 7, c'est Paul qui dit ça, au verset 18, il dit ceci. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, disait-il. » C'est Paul qui dit ça. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, il n'habite pas en moi. » Ah ben, donc j'ai dit « Je suis d'accord avec toi. » Et Jésus encore répète dans Luc chapitre 18, verset 18, il dit « Ah, car je sais ce que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature, vouloir le bien et ma portée, mais non l'accomplir. » Amen. Luc chapitre 18, verset 18. Ah, ça, c'est un homme, un maître qui vient le voir. Et il dit à Jésus, « Bon maître !» Alors, voilà. Alors, un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Regardez la réponse de Jésus au verset 19. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon, si ce n'est qui ?» Personne n'est bon. Donc comment on peut attribuer à Dieu nos sentiments touchés par le péché, nos imaginations touchées par le péché, nos pensées touchées par le péché? On a attribué souvent à Dieu quelque chose qui est abîmé. Donc Dieu n'est pas en toi quelque chose de bon. Amen. Il n'y a rien de bon en toi que tu peux attribuer à Dieu. Par contre, tu peux dire une chose. Si du moins tu as accepté Christ dans ta vie, Dieu voit ce qui est bon en toi, Christ en toi seul est bon. Amen. Alors, ce qui est intéressant, dans l'ancien temps, les Juifs, comme personne ne pouvait enlever le péché de leur vie, mais Dieu a donné un principe. On pouvait venir faire ce qu'on appelle la substitution. Quelqu'un qui va prendre à ta place, qui va prendre ton péché à ta place. Alors ça, c'était les animaux, en particulier un agneau qu'ils amenaient. Et ces gens donc venaient chaque année avec un agneau au bras, peut-être un agneau qu'ils ont nourri toute l'année, et tout ça, tout préparé. Ils viennent avec l'agneau et il présente cet agneau devant le sacrificateur. Alors le sacrificateur, il ne lève même pas la tête pour voir le monsieur. Simplement, il regarde l'agneau s'il n'avait ni tache, ni défaut, s'il n'était pas borgne, s'il n'avait pas une patte cassée. Il vérifie tout. Après avoir vérifié, il lui donne l'agneau au monsieur. Il prend un couteau. Il lui donne le couteau au monsieur, il lui dit, je mets ma main sur ta main et c'est toi qui vas tuer l'agneau. Donc, celui qui vient d'amener l'agneau prend la tête de ce petit agneau qui vient d'élever pendant un an, qui avait mangé dans sa main, et d'un seul coup, il coupe la gorge de l'agneau et le sang jaillit. Imaginez cet agneau qui est innocent, prend le péché de cet homme et le gars, il part en disant « Oh, c'était mon agneau qui a pris ma place. Moi qui méritais la mort, l'agneau a pris ma place. » Dans Romains chapitre 3, verset 23, nous dit ceci. Tous ont péché. Il n'y a pas un humain qui n'a pas péché. Même tous les saints que vous voyez. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a des saints qui sont différents des êtres. Ils pensent même que Marie est différente que d'autres. Vous comprenez, Marie, elle était aussi pécheresse que tout autre homme humain qui ont existé. Mais comme, c'est vrai, les catholiques n'ayant pas la définition exacte, ils ont dit, si elle peut avoir quelqu'un de saint, donc automatiquement, elle doit être sainte. Alors, ils ont inventé toute une histoire au point même de faire d'elle qu'elle a été comme enlevée au ciel. C'était en 1953, hein, l'enlèvement de Marie et tout ça. C'était au Canada qu'on a proclamé que Marie, il y a eu l'ascension de Marie. Mais bibliquement, vous ne trouvez nulle part qu'elle a eu l'ascension. Hein. Par contre, elle était la première femme porteuse de quelqu'un qui est tout saint. Amen. Alors, voilà ce qui se passe, ce qui est très intéressant dans l'histoire. C'est que cet homme part, après avoir donc versé ce sang de ce petit agneau, et il savait pendant un an quelqu'un a pris sa place dans le péché. C'était ce petit agneau, c'est le sang de ce petit agneau. Voilà alors, un jour, tous les Juifs, ils attendent que le Messie vienne. Ils attendent que quelqu'un vienne payer un prix énorme. Donc, Jean-Baptiste était en train de baptiser tous les gens. Et d'ailleurs, le texte nous dit que toutes les personnes qui venaient faire le baptême, d'abord, ils se repentaient de leurs péchés. Et c'était après quoi qu'ils les baptisaient. Mais ce jour-là, ils voient de loin qui ? Un homme qui arrive. Alors, écoutez bien, l'histoire est très, très intéressante. Les Juifs savaient que l'agneau qui a été tué donc au temple, le Saint-Esprit vient agréer quelque chose qui est parfait, saint, sans tache, ni ride. Et le Saint-Esprit vient se poser que sur cet agneau qui vient d'avoir le sang qui est versé. Pour la première fois de sa vie, Jean-Baptiste, il voit un homme dont le Saint-Esprit vient sur lui en forme de colombe. Ah, il était choqué. Il a dit, j'ai jamais vu un humain qui est sans péché. Parce que pour que le Saint-Esprit vienne se poser sur quelqu'un, il faut qu'il soit sans péché. Il voit un humain dont le Saint-Esprit vient se poser sur lui. Il dit, voici l'agneau. C'est pour ça, vous avez le texte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était une révélation pour lui. Ah, il commence à crier, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui, il fait. Alors, en tant qu'humain, le Saint-Esprit qui se pose sur lui, c'était la garantie que Dieu venait sur quelque chose qui est sans tache, ni ride, sans cassure, sans aucun défaut. C'est notre roi Jésus. C'est pourquoi, souvent je dis aux gens, comment je peux être sûr que Jésus est mon Seigneur? Comment je peux être sûr qu'il habite en moi? Ils me disent. J'ai dit, tu sais, c'est tout simple. Tu le trouves dans Romains, chapitre 10, où il dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, alors il dit, tu es sauvé. Ça veut dire quoi? Tu viens de l'inviter à rentrer à l'intérieur de toi. Et quand tu l'invites, ce qui est saint, habitant en toi, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il suit toujours là où il y a quelque chose de saint. Amen. Le Saint-Esprit suit la personne qui est sainte, c'est tout. Donc, c'est pour ça, en moi, il n'y a rien de bon. Mais le Saint-Esprit qui habite en moi est bon. Amen. Christ, que j'ai fait mon Seigneur et mon Maître, devient celui, le Saint-Esprit, qui vient se poser. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci, le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu donne un acompte. Le gage, vous savez c'est quoi? C'est un acompte. C'est comme si quand vous achetez une maison, vous donnez un acompte. De la même manière, Jésus, Dieu dit, pour celui qui a accueilli Jésus, mon fils, en tant que maître et seigneur, et qui lui a dit, tu es mon Seigneur, depuis le jour où tu as confessé cette parole, le Saint-Esprit vient demeurer à l'intérieur de toi. D'un seul coup, le Saint-Esprit, il rentre avec. Parce que là où il y a quelque chose qui est sans péché, sans défaut, sans ride, sans aucun problème à l'intérieur, le Saint-Esprit suit toujours. C'est pour ça, il y a quelque chose de bon en moi, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout le reste n'a aucun pouvoir. C'est pour ça aujourd'hui, si jamais tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, si juste seulement tu connais que Dieu existe, ça ne suffira pas. Il faut que tu le fasses. Le Seigneur est le maître de ta vie et l'accueillir. Dès que tu dis Seigneur, je t'accueille. Tenez, qu'est-ce que vous faites au mariage? Le jour du mariage, qu'est-ce qu'il fait le pasteur ou le prêtre? Quelle est la garantie de que ton mariage tient debout? Tu crois que c'est ta bague? Tu rêves. C'est pas ta bague. C'est la parole que tu as donnée. C'est pour ça que quand on dit, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je confesse que tu es mon Seigneur. Le mariage se conclut ce jour-là. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vient demeurer en toi. C'est pour ça, dans le mariage, on vit ensemble. Il n'y a pas mariage, c'est pareil. Amen. On vit ensemble. C'est la même chose. Christ vient demeurer en toi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient aussi demeurer avec toi. Et ça devient le gage de ton héritage. Ça veut dire, quand le diable voit, il dit, lui, il a déjà fait, la compte est déjà donnée, quoi. Il appartient à quelqu'un, amen. Et il saura qu'il n'y a aucun droit sur ta vie, amen, amen. Donc, déjà de savoir que Christ habite dans ton cœur, c'est la clé la plus importante pour ce que je vais continuer à vous partager. Alors, c'est quoi connaître Dieu? Alors, Jésus donne une définition qui va vous choquer. On va ouvrir dans Jean, chapitre 17, verset 3. Là, cette définition est très, très, très mal comprise par beaucoup de personnes. Jean, chapitre 17, verset 3. C'est quoi connaître Dieu? Or, la vie éternelle, écoutez bien, consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas une dortoire future. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle, c'est une récompense future après la mort. Ce n'est pas vrai. D'après ce texte, vous venez de le lire avec moi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Donc la vie éternelle commence quand? Au moment où tu as accepté Jésus comme maître et seigneur de ta vie. Au moment où tu as dit Jésus. Je fais de toi mon Seigneur. D'un seul coup, cette vie d'une autre dimension devient la partie de ta vie. Amen. C'est pourquoi beaucoup voient l'éternité comme une récompense future après la mort, mais Jésus nous dit qu'elle est déjà accessible. Donc, la vie éternelle, elle est déjà accessible. Amen. Elle est à ta portée, simplement, tu n'as jamais été conscient. Alors, les gens travaillent pour leur futur. Quel futur? Tu es déjà dans le futur. Le jour où tu as accueilli Jésus. C'est pour ça que ce texte nous dit, dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La définition donc de la vie éternelle, c'est quoi? On peut le remettre? C'est que connaître. C'est pour ça que j'ai dit, c'est tellement important de savoir et de connaître ton Dieu. Amen. Quand tu le connais, ça fait toute une différence. Beaucoup, beaucoup pensent à l'éternité comme un temps infini après la mort. Mais Jésus nous révèle que c'est avant tout une qualité de vie, vivre en communion avec lui. C'est ça. Donc la vie éternelle, c'est une qualité de vie dès le jour où tu l'as acceptée. Au moment où tu dis « Jésus, je t'accueille comme maître et Seigneur », tu rentres dans la dimension de la vie éternelle. Et ta vie commence à ce moment-là. Connaître Dieu, c'est entrer dans une relation d'intimité avec ton Dieu. Non point de pouvoir de connaître des choses sur Dieu. Ce n'est pas ça la vie éternelle. C'est maintenant. Ça a commencé. Donc maintenant, comme disait un politicien, il dit, le changement, c'est maintenant. J'ai dit, oui, le changement, c'est maintenant. Nous, le jour où on a accepté Jésus, le changement, c'est à ce moment-là. Amen, amen. Le jour où j'ai accueilli Jésus, le changement est venu. C'est pour ça qu'on est redoutable dans le monde invisible. Mais nous, on ne se voit pas comme ça. Parce qu'on n'a pas compris que la vie éternelle, là, déjà, le départ, là, à l'intérieur. Et c'est ça. Elle est là. Elle est plus proche que ta respiration. Plus proche que ta respiration. Juste par un mot que tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité. Je t'accueille comme Seigneur et Maître de ma vie. Au moment où tu as dit ça, le mariage est conclu. Lui, il a fait de toi quoi? Sa demeure. Et l'éternité commence à ce moment-là. Tout commence à ce moment-là. Mais voyez-vous, la religion, par contre, nous a menti. La religion nous a dit, c'est une récompense future. Travaille pour ton salut. C'est vrai, la Bible le dit. Mais nous, on n'a pas compris que c'est maintenant que cette vie commence. Le jour où tu as dit, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, pardonne mes péchés, je veux te rencontrer. Et tout change à ce moment-là. Ça va? Vous me suivez? Alors, la vie éternelle commence maintenant. On peut le dire ensemble? La vie éternelle commence maintenant. Parce que tu l'as accueilli. Amen. Si du moins, tous vous l'avez accueilli, ça commence maintenant. Alors, si jusqu'à aujourd'hui, tu croyais que c'était un truc futur, ben, on aura un petit temps de repentance. Ça vous va, ça? Hein? On va lui dire, pardon, Seigneur, combien j'avais été ignorant de croire que c'était un truc futur et dire que ça commençait déjà maintenant. Donc, ce n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente pour celui qui croit. Elle n'est pas une durée, mais une relation. C'est ça, amen, amen. Chaque lecture de la parole que tu fais, chaque prière, chaque acte d'obéissance et d'amour est déjà un avant-goût de l'éternité. C'est ça ce qui se passe. Chaque fois quand tu élèves ta bouche, tu dis Seigneur Jésus, là, exactement, je t'aime. Au moment où tu dis ça, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Tu n'es même pas conscient. Donc, Dieu ne se fait pas connaître pour celui qui le cherche. Dieu se fait connaître pour celui qui le cherche de tout son cœur. Voyez-vous, si vous n'avez pas faim et soif, il ne se laisse pas trouver. C'est clair. Exactement. Moi, j'avais une école des arts martiaux, j'avais 105 élèves, j'étais maître dans les arts martiaux, j'avais beaucoup d'argent, j'avais tout ce qui était nécessaire. Cependant, ma question était, c'est quoi la vie? Manger, boire, grandir, vieillir, se marier, avoir des enfants, mourir? J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. J'aimerais qu'on m'explique la raison de mon existence. Alors, vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle des moines qui se cachent dans des montagnes. Alors, ces moines, on les considère comme des gens sages. C'est des orthodoxes, des coptes qui se cachent et qui consacrent leur vie à la recherche de Dieu. Ils font ça. Alors, quelqu'un m'a dit, oh là là, il y a un moine incroyable. Tu fais tel chemin, tu vas de tel endroit, tel village, et sur une montagne, il y a un moine. Alors, j'étais content, moi. Alors, j'ai pris ma voiture, je me suis garé en dessous de cette colline, et je suis allé voir donc ce fameux moine, un homme, avec des cheveux blancs, on dirait un Père Noël, mais c'était impressionnant. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh mince. Et alors, je rentre dans sa petite piole, il me fait asseoir, il me dit, qu'est-ce que tu es venu chercher, fils, il me fait. Ah, je lui dis, pas grand-chose. Une chose plus importante pour moi, c'est à quoi sert la vie? C'est quoi la vie? Manger, boire, grandir, faire des études, avoir de l'argent, s'enrichir, se marier. C'est quoi la vie? Je lui dis ça. Oh, il me dit, mais tu es encore jeune. Mais amuse-toi! Laisse tomber cette question, il me fait. Oh, quelle déception! Mais quelle déception! J'étais déçu! J'ai jamais été aussi déçu que ce jour. Je suis descendu, je ne me rappelle même pas comment j'ai descendu de cette colline. J'ai dit, mais personne n'a une réponse. Voyez-vous, quand vous avez faim et soif, Dieu ne vous laisse pas sans répondre. Des jeunes garçons, des jeunes filles qui avaient une relation avec Jésus, un ami vient me dire, « Ah, il y a ma sœur et mes frères qui aimeraient te rencontrer. » Je dis, « Ah bon, moi ?» Oui, ils étaient plus jeunes que moi en plus. Je dis, « Ah bon ?» Oui, ils veulent te rencontrer parce qu'ils veulent parler avec toi. En fait, eux, ils ont prié, Dieu leur avait donné une révélation qu'il fallait qu'on me parle à moi. Ils m'invitent, ils préparent avec le peu qu'ils avaient, ils ont préparé un repas et ils m'ont invité chez eux. Ils commencent à me parler de Jésus. Je dis, « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» C'est quoi ça? Moi, je connais Jésus, j'ai dit. Vous savez, comme connaître que Dieu existe ne veut pas dire connaître Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Moi, j'avais cette notion religieuse, orthodoxe, c'est tout ce que vous voulez, mais j'avais cette notion, c'est tout. Alors, ils me disent, mais non, tu n'es pas chrétien. J'ai dit, quoi? Moi, je ne suis pas chrétien. Et ça m'a énervé, ce qu'ils me disaient. Et, entre-temps, il y a une femme qui rentre dans la pièce où on était. Et cette femme raconte qu'elle a été guérie de son asthme. Ma mère était asthmatique. Ouh, ça, les oreilles de Mickey s'est ouvert. J'ai dit, quoi? Comment tu as été guéri? Alors il dit, c'est Jésus qui m'a guéri, c'est ces jeunes qui ont prié pour moi. Vous savez, le cœur de Dieu. Là où vous n'avez même pas pensé, là où vous n'avez même pas cru qu'il y aurait une solution à mon cri. Et c'est là que le Seigneur a révélé son cœur à mon cœur. Ben, c'est toute une histoire, c'est mon témoignage, mais un autre jour, je vous parlerai. Et c'est comme ça, c'est avec, au travers de ces jeunes que j'ai rencontré Jésus. Et ma vie a totalement changé. Et cette connaissance, par contre, elle continuait parce que je voulais, dans ma tête, voyez-vous, connaître Dieu, c'était quelque chose qu'il fallait que je me tienne droit, vous savez, toutes les règles qu'on m'a mis. Donc, j'avais tout été mélangé dans ma tête. Mais n'empêche, comme j'avais dit à Jésus, je veux que tu sois le maître de ma vie, ma nourriture et mon vrai breuvage. Si tu existes, ne me laisse pas ignorant. Je te servirai tout au long de ma vie. Je serai à toi, pour toi, à jamais. Amen. Le choix que j'ai fait n'est pas tombé dans une oreille sourde. Et que son nom soit béni. Il a attiré mon attention. Il m'a capturé dans son royaume. Que son nom soit béni. Amen. C'est pour ça, Jérémie 29, verset 13, nous dit ceci. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si... Je crois que ce matin, vous êtes là parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, mais Dieu a choisi de passer que par son Fils. Eh bien, il est Dieu. Il fait son choix. Il pouvait nous faire passer par une religion. Il pouvait nous faire passer par une, je ne sais quoi, par une voiture. Mais en tout cas, non. Lui, il a choisi de nous faire passer par son Fils. C'est pour ça que Jésus nous dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, écoutez bien, nul ne peut venir à lui, au Père, que par moi. » Il n'y en a plus d'autre chemin. Ça n'existe pas. Alors, le connaître, dans quel domaine devons-nous connaître Dieu? Le texte que j'ai lu au début, Jérémie chapitre 9, verset 23, nous dit, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir qui je suis, que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. Donc, il faut qu'on le connaisse dans sa bonté. C'est étonnant. C'est lui-même qui dit, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma bonté. Il dit, ah, mince, le connaître dans sa bonté. Après, il dit, le connaître dans son droit, dans le droit. Et le connaître dans la justice. Les trois choses, c'est intéressant. Dieu lui-même, il dit, si vous voulez me connaître, voilà ces trois choses. C'est par ces trois choses que quelque chose se passe. Il y en a d'autres, mais je viendrai. C'est par ces trois choses. Alors, c'est quoi la bonté? J'aime le texte Romains chapitre 2, verset 4, il nous dit, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la peur qui m'a attaché à Jésus. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent à Jésus par la peur de l'enfer. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est qu'il m'a accepté, moi, le plus grand pécheur, et qu'il voulait demeurer à moi, ça m'a bouleversé. Comment t'as fait pour accepter un voyou comme moi? Comment t'as fait pour accueillir et venir vivre dans ce corps qui est pécheur? C'est sa bonté qui m'a fait fondre. Sa bonté vaut mieux que la vie, nous dit le psaume 63. La vie même. C'est sa bonté qui m'a poussé à la repentance. J'ai changé de comportement, d'attitude. Chaque fois, on dit, tu es trop bon que je te fasse ça, Seigneur. Tu es trop bon que je vive des choses qui t'attristent. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Vous comprenez, je dis, mais je ne peux pas le faire. Je ne veux pas t'attrister. Tu es trop bon pour que je te fasse, que je brise ton cœur. Alors, si je résiste au péché, ce n'est pas parce que je suis fort. C'est sa bonté qui me pousse à ne pas le faire. Si je résiste, si j'ai obéi à sa parole et que je pardonne les gens, ce n'est pas parce que les gens ne me font pas mal. On a envie de les cogner, n'est-ce pas? Eh bien oui, hein? Mais cependant, j'ai fait le choix de pardonner à cause de sa bonté. Sa bonté me pousse à la repentance. Amen. C'est pour ça que Dieu se dit, vous ne me connaissez pas dans ma bonté. Vous ne savez pas qui je suis. Si vous connaissez comment je suis bon, oh là là, vous me connaîtrez. Amen, amen. Est-ce que vous le connaissez dans sa bonté? Souvent, on a l'image de Dieu comme celui qui est punisseur, tu savais. J'ai fait une petite erreur, bam, il a comme un bâton derrière. Il dit, on va voir ce que tu vas faire. Tu vas voir, bouge un petit écart, tu vas voir. Et on a toute cette imagination. C'est pour ça qu'on adore le Dieu qu'on s'est imaginé, nous, sans savoir que notre Dieu baigne dans cette bonté. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Sa bonté vaut mieux que la vie même. Amen, amen, amen. Donc, est-ce que tu le connais dans sa bonté? Alors, tout à l'heure, je vais vous donner des méthodes simples pour rentrer dans cette dimension. On le fera, l'expérience, ensemble. On va le vivre. Je vous assure, on va le vivre. On va faire cette expérience tout à l'heure. Mais aussi, est-ce que tu le connais dans le droit? Le droit, c'est quoi? Nous, vous savez, ce sont des normes de conduite. Vous savez, les normes de conduite, ce qui est permis, ce qui est interdit. On le sait. Par exemple, si je vous dis, tu ne voleras pas. Est-ce que la bonté de Dieu te permet de faire tout ce que tu veux? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Dieu a mis des règles en disant, voilà, je suis un Dieu bon, ma bonté est immense, mais voilà, si tu veux rester en relation avec moi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que Jésus a enlevé cette loi? Vous savez, quand les gens disent, oh, c'est du légalisme, je dis, non, 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 non. Vous savez, quand Jésus est venu, dans le domaine loi, il y a 5 lois. Il y a ce qu'on appelle la loi, je dis la loi physique. Vous connaissez la loi physique? La pesanteur, la pluie, les neiges, et tout ça, ce sont des lois. C'est pour ça, quand l'été vient après l'hiver, ainsi de suite, tout ce que vous voyez, ce que vous vivez, l'automne, l'hiver et le printemps, ce sont des lois physiques. La loi physique aussi, quand tu manges du sel trop ou quand tu manges trop de sucre, ben c'est une loi physique, hein, quelque chose se passe. Tu ne dis pas, oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber malade? Ah ben attends, arrête de manger trop de sel, quoi. Arrête de manger trop de sucre, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a une loi physique. Donc on ne peut pas accuser cette loi. Et Jésus n'est pas venu la bouger. Il l'a laissée telle qu'elle est. Parce qu'elle est importante. Deuxième sorte de loi, il y a ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale, c'est comme l'orgueil. Par exemple, la Bible nous dit, Dieu élève l'humble, il abaisse l'orgueilleux. Est-ce que ça marche que pour les chrétiens, ça? C'est tout pour tout le monde, c'est pour toute l'humanité. Tu peux ne pas être chrétien, tu es orgueilleux, et bien écoute, tu vas, un de ces jours, tu vas tomber tu es au plus bas. Ok? Tout ce que tu le fais avec orgueil, tu le payeras, parce que c'est une loi universelle. Donc tout ce qui est la loi morale. La loi morale qui touche le caractère, le comportement, et qui touche ton comportement et ta conscience. En plus, il y a une autre loi, la loi spirituelle. Vous connaissez cette loi spirituelle? La loi spirituelle, c'est une loi que ce que tu dois voir avec tes conduites, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la relation entre les hommes et Dieu, l'aspect intérieur, invisible, des choses qu'on ne voit pas. Quand la Bible nous dit, Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Tu peux être très gentil d'apparence, avec un cœur tortueux. À David, il dit, ah! Et Samuel, il a vu un grand, il était musclé, il dit, waouh, certainement c'est lui le roi. Il lui dit, non, Dieu sonde les cœurs et les reins. Moi, je connais le cœur de David. Et le plus petit, le plus blond, le plus je ne sais quoi, c'est lui que Dieu a choisi, parce que Dieu a vu quoi? Son cœur. Amen. Nous, on voit l'apparence, Dieu voit le cœur. Ça, c'est une loi spirituelle. Jésus, est-ce qu'il l'a touché ça? Non. Il y a une autre loi. Il y a la loi sociale. Le comportement que tu dois avoir avec les uns et les autres. Tu dois respecter les uns et les autres. C'est une loi sociale. Que vous le vouliez ou pas, vous devez respecter cette loi sociale. Donc il y a des lois sociales. La seule chose que Jésus est venu toucher, c'est la loi rituelle. Tout le reste, c'est intact. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des lois, c'est pour ça que la Bible nous dit de Jésus, il dit, il est venu accomplir, perfectionner la loi. Ça veut dire la loi rituelle. La loi rituelle, c'était quoi? C'était les sacrifices. Donc, il s'est fait sacrifier lui-même. Amen. Jésus, donc, il a fait le sacrifice pour lui-même. Et ce sont des choses le temps, par exemple, il y a des gens qui disent c'est samedi, c'est Shabbat, on doit faire ceci ou cela. Ce sont des lois rituelles où se laver les mains, vous savez, il y avait de ce qu'on appelait les ablutions. Toutes ces lois rituelles, Jésus l'a totalement pris sur lui, il l'a accompli. Donc, tout le reste des lois que je viens de vous dire reste intact. C'est pour ça que tu ne mens plus. C'est pour ça que tu ne voles plus. Parce que tu as dit, ces lois de Jésus, il respecte, il les aime. La seule chose qu'il a enlevée, c'est la loi rituelle. Lui-même, il s'est sacrifié et il a payé le prix de sacrifice. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de rituel. Vous passez par moi. OK. Donc, ça sont des lois qu'il a fait. Donc, la justice. Et aussi, Jésus, Dieu nous dit, est-ce que tu me connais dans ma justice? La justice de Dieu comprend l'équité, la miséricorde, la droiture de cœur, l'intégrité, la compassion envers les autres. Ça, ce sont les lois de la justice. Maintenant, est-ce que tu connais Dieu dans son amour? Il y a un texte dans Éphésiens, chapitre 3, versets 18 à 19. On va lire ce texte, c'est très très intéressant. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, c'est incroyable. Alors, on doit connaître Dieu dans quoi? Tout à l'heure j'ai dit dans sa bonté, dans sa droiture, dans sa justice. Mais ici il nous dit, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Je ne sais pas quel texte tu as sorti. Ah, c'est Sommer. En tout cas, si tu peux mettre second, peut-être, il dit connaître l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ et de connaître cet amour, ça veut dire connaître quoi? L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Depuis quand l'amour a une largeur? Depuis quand l'amour a une longueur? Depuis quand l'amour a une profondeur? Depuis quand l'amour a une hauteur? Voyez-vous, le texte nous parle que Dieu a une dimension dans l'amour, en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Donc, Paul nous dit, il faut le connaître dans sa grandeur, dans sa hauteur et dans sa... Quand on parle de la largeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que Dieu embrasse toutes les nations, embrasse toutes les races, parce que c'est lui qui a créé tous les humains. Personne n'a choisi son pays de naître, pour naître. Okay? Et il embrasse toutes les classes sociales. Il embrasse toutes les couleurs. Il embrasse tout ce que les gens qu'on appelle tous les pécheurs. Il aime l'homosexuel, sans aimer l'homosexualité. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc il n'y a aucune personne. La largeur du cœur de Dieu est incroyable, incroyable. Il a un cœur large. C'est pour ça, est-ce qu'on le connaît dans sa largeur? Voyez-vous? Le connaître dans la largeur du cœur de Dieu. Deuxième, dans sa longueur. Vous savez, quand je pense à la longueur de l'amour de Dieu, vous savez qu'est-ce que je crois? Je crois à la patience de Dieu. Oh là 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 là, combien il est patient avec moi. Mon Dieu, en tout cas, je ne sais pas avec vous, mais en tout cas avec moi, il est patient. Des années, ça passe, je n'ai même pas réalisé des choses dans ma vie. Et après 40 ans, il me dit, Tef, il y a ça, tu t'es patienté 40 ans pour me dire, Seigneur, ça vous est jamais arrivé ça? Ah oui, la patience de Dieu à notre égard, la patience de notre rébellion, la patience qu'il a sur notre cœur qui croit tout savoir, la patience qu'il a dans tous nos propos, nos façons de voir, de penser, de juger les gens, de parler sur des gens. Oh là 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 là, mais qu'il est patient. Amen, amen. Donc, connaître Dieu dans sa patience. Ça, c'est la longueur. Ça, c'est donc, c'est mon regard à moi, hein. C'est comme ça que je vois. Lent à la colère, nous dit, riche en bonté, que son nom soit béni. S'il n'a pas été lent à la colère à mon égard, s'il n'a pas été riche en bonté à mon égard, j'étais perdu d'avance. Elle dure pour l'éternité. L'amour de Dieu ne faiblit pas avec le temps. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera, nous dit Philippiens chapitre 1. Verset. Il est patient avec toi. Il est patient avec moi, merci Jésus. Heureusement que les humains ne sont pas patients avec moi, mais lui l'est, que son nom soit béni. Amen, amen. Donc, cette longueur de sa patience, mais aussi dans sa profondeur. Connaître l'amour de Dieu dans sa profondeur. C'est quoi sa profondeur? La profondeur, c'est la sagesse de Dieu. Des fois, on dit, oh là là, cette personne, elle est profonde. Vous n'avez pas entendu ses propos? Ça veut dire la sagesse de Dieu. Je vais vous raconter une histoire d'un juif. Il y avait un juif. Ce juif voulait connaître Dieu de tout son cœur. Alors, il a dit, si je rencontre Élie, Élie donc le prophète, il a dit, lui, il m'expliquera comment est Dieu. Alors, il a fait la recherche et voilà, il tombe, il rencontre Élie. Oh, il lui dit, c'est toi Élie? Il lui dit, oui. Eh bien, écoute, j'ai envie de connaître qui est Dieu. Il paraît que toi, Élie, tu le connais de tout ton cœur. Alors, j'aimerais te suivre, apprendre de toi pour connaître Dieu. Alors, il lui dit, d'accord. Mais il y a des conditions, lui dit Élie. Deux conditions. La première, tout ce que je fais, tu me vois faire et tu ne me poses pas de questions. On lui dit, c'est facile. D'accord, je ne te poserai pas de questions. Deuxième, il lui dit. Deuxième, le jour où tu me poses la question et tu veux connaître la réponse, on se sépare. Il dit, très bien. Oh, il était content. Il était content. Alors, il commence à suivre le prophète Élie. Ils étaient ensemble. Et la première nuit, voilà, la nuit tombée, et qu'ils arrivent dans un village où il y avait un seul homme pauvre avec ses enfants. Et cet homme pauvre, il n'avait qu'une seule vache. Et il avait sa vache dans sa maison, presque. Et donc, ses enfants étaient nourris du lait de la vache. Et le fromage sortait de la vache. Alors, ils étaient là. Et dès que Élie et cet homme sont arrivés, et ce pauvre gars, il a lavé les pieds d'Élie, lavé les pieds de l'autre homme. Il a donné sa chambre et il était heureux. Et au milieu de la nuit, Élie se lève et il dit, « Non, tue la vache !» Et l'ange de Dieu, bam, il tue la vache. Et la vache est morte. L'autre gars, il dit, « Mais qu'est-ce qui lui prend, Élie ?»« Mais Élie, qu'est-ce que tu... » Il allait poser, il lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit, « Non, je ne pose pas de questions, il fait. » Mais il était tourmenté toute la journée. Il dit, quelle injustice. Ces gens pauvres, ils n'avaient rien. Ils ont donné le meilleur qu'ils avaient. Et voilà, ils se lèvent la nuit et ils tuent la seule vache qu'ils ont. Mais avec quoi ils vont vivre? Allez, il est en train de râler, de râler, de râler, de râler. Deuxième nuit arrive. Alors, deuxième nuit, c'était un homme très riche. Il avait une telle richesse. De loin, il les voit. Il envoie ses serviteurs. Il dit, ces voleurs, je ne les veux pas chez moi. Que personne ne s'approche de ma demeure. Alors, les gardiens les ont poussés à l'extérieur. Il y a un qui a eu pitié. Il lui dit, tu sais, mon maître est en train de construire une sorte de grange juste là-bas. Les murs ne sont pas finis. Il n'y a qu'un seul mur qui est là. Mais au moins, le vent ne va pas vous toucher. Allez dormir cette nuit là-bas, il leur fait. Alors, Élie et l'ami sont allés dormir là-bas. Et au milieu de la nuit, Élie se lève. Il dit, Seigneur, envoie tes anges et construis les murs. Les anges sont venus, ils ont construit tous les murs. L'autre était choqué. Il a dit, à celui qui nous fait du mal, il lui fait du bien. À ceux qui nous font du bien, il nous fait du mal. Mais je ne veux plus suivre cet homme. Alors il dit, bon, écoutez, Élie, je crois que notre voyage s'arrête là. J'aimerais te poser des questions. Il lui dit, attention, Si tu me poses des questions, je te réponds, ça c'est pas. Je préfère, mais je veux savoir. Il lui dit, d'accord, assieds-toi. Il s'assoit, était là, il râlait. Il dit, tu vois, la première nuit, j'ai pas compris, la première nuit, pourquoi tu as tué la seule vache qu'ils avaient? Et il vivait avec ça, tu le sais. Il lui dit, oh, ce que tu ne sais pas. Cette nuit-là, l'ange de la mort est venu pour prendre la vie de la femme de ce pauvre homme. Je lui dis, non, pas la femme, la vache. Donc l'ange de la mort a tué la vache à la place de la femme. Oh, il dit, oh, alors là, alors quelle sagesse, oh là là, il était impressionné. Mais il lui dit, pourquoi la deuxième, tu as fait construire tout le mur autour? Oh, c'est facile. Cette nuit-là, dans mon rêve, je regardais à l'endroit où cet homme riche n'avait pas encore construit le mur. S'il creusait un peu, il allait trouver un trésor parce qu'il y avait un trésor enterré là. J'ai dit, Seigneur, envoie tes anges, j'ai construit le mur. Si plus il s'enrichit, plus il va être méchant. Donc que sa richesse s'arrête. Oh, l'autre, il était émerveillé. Voyez-vous, nous, les profondeurs du cœur de Dieu, on ne le comprend pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, « Ma voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Vous serez surpris comment Dieu raisonne, comment Dieu met les choses en place, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. Donc, c'est ça la clé qu'on doit avoir dans les profondeurs. La profondeur du cœur de Dieu nous dépasse. Amen, amen. Plus vous connaissez comment il fonctionne, plus vous allez être différent avec lui. Et connaître dans sa hauteur. Il n'y a pas plus grand que Dieu. La hauteur montre la grandeur. Qui est plus grand que Dieu? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre, c'est son marchepied, nous dit la Bible. Et rien ne peut égaler à notre Dieu. Amen. Donc, c'est ce grand Dieu dont l'univers tout entier ne peut le contenir, qui est venu faire sa demeure où? En nous. L'autre jour, j'avais les enfants que je devais parler sur Jésus. Je leur dis, où est l'adresse de Dieu? Tout le monde m'a dit, dans le ciel. J'ai dit, eh bien, pas tout à fait, je leur dis. Dieu a choisi de faire une autre demeure qui s'appelle le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en toi. C'est ça la clé. Ce grand Dieu de l'univers a choisi de vivre en toi. Mais sommes-nous conscients? Connaissons-nous sa volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle, nous dit dans un autre. Donc connaître aussi sa volonté. Ça, c'est quelque chose. Chaque fois, je lui pose la question, c'est qu'est-ce que tu veux? Là, avant de venir ici, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux pour Nantes? Parce que je peux vous dire plein de choses. Mais qu'est-ce que tu veux pour Nantes? C'était ma question. Donc, connaître sa volonté avec toute sagesse et intelligence, nous dit la Bible. Maintenant, comment faire pour avoir accès dans sa présence? C'est ça. Tout ce que je vous ai dit, ce sont des choses alléchantes. Mais comment aller alors prendre ça? La première chose à savoir, c'est que Dieu... Depuis tout à l'heure, je répète exprès que Dieu habite en vous. On a tellement l'habitude de le chercher à l'extérieur. Tellement. Chaque fois, quand les gens louent le Seigneur, ils disent « Viens, Saint-Esprit !» J'ai dit non, moi je ne chante pas des chants comme ça. J'ai dit « Il est déjà avec moi. Pourquoi je lui dis de venir ?» Comme s'il n'était pas là. Il y a des gens qui disent « Oh !» Mon Dieu, c'est toi qui écoutes. Ne t'inquiète pas, il écoute plus que tu le penses. Il a fait de toi sa demeure. Celui qui a planté des oreilles, n'entendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux, ne regarderait-il pas, nous dit. Plus proche que ta respiration. Ton comportement changerait si tu es conscient qu'il est tout le temps avec toi. Tout le temps. Alors, il y a une chose qu'on ignore. On ne sait pas comment aller vers l'intérieur. C'est ça notre vrai problème. Alors, on va faire cette expérience ce matin ensemble. Vous allez vivre, peut-être, comme vous n'aviez pas l'habitude, ça va prendre... Moi, je vous donne 21 jours à comprendre comment fonctionne cette relation intime avec Dieu. 21 jours. Simplement apprendre à aller à l'intérieur. Dès que vous allez à l'intérieur, puisque Christ est en moi, c'est 25 cm l'histoire. On cherche au troisième ciel. C'est 25 cm, mon ami. Simplement, tu vas à l'intérieur. Tu fermes les yeux. Tu commences à lui dire, je t'aime, Jésus. De toute manière, tu sais tout. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? Hein? Amen, amen. On va parler, on va être naturel. J'aime ce texte, il dit « prier sans cesse ». Il y a des gens qui m'ont dit « Tef, combien de fois tu pries par jour ?» J'ai dit « sans cesse ». Parce que pourquoi ? J'envoie des SMS, moi. Souvent des SMS, parce que je suis avec lui. Il me voit faire, il m'entend faire, il me tend parler, tout. Et d'ailleurs, envoie des SMS. « Bonjour Jésus, je t'aime, merci d'être avec moi. De quoi aurais-je peur ? Tu es avec moi, tu es celui qui me soutient. » Et j'ai appris à parler avec lui continuellement. Plus proche que ta respiration. Quand tu as cette relation d'intimité, tu vivras ce bonheur de ne jamais craindre le diable, de ne jamais craindre l'avenir, de ne jamais craindre de ce qui peut arriver, de lui faire totale confiance. Tout ça. Heureusement, imaginez, il y a des gens qui vont dire, oh, on va étudier la théologie, j'ai dit, pour celui qui sait ni lire ni écrire, comment il ferait, mon Dieu ? Une relation toute simple à l'intérieur de toi. Toute simple. À nous d'être simples avec lui. Amen, amen. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens honnêtes. Honnêtes, c'est tout ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que tu n'es jamais parfait. Il n'y a que lui seul qui est parfait. Amen, amen. Honnête. Alors si vous voulez, on va se lever. On va mettre en pratique cette relation simple. Simple avec lui, on va fermer nos yeux. Et des fois, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Des fois, au moment où tu vas vers l'intérieur, hop, une idée te traverse dans ta tête. Oh, t'as oublié ça. Oh, t'as pas fermé la porte. Des idées comme ça. Ne te bats pas pour arrêter ça. Va de nouveau à l'intérieur et dis à Jésus, tu sais Jésus, tu connais mes peines. Tu connais les choses qui ne vont pas. Tu vas être simple. Amen, amen. Une relation simple. Profonde et simple. Tout enfant peut y aller. Tout grand peut y aller. Tout éduqué, pas éduqué peut y aller. Tout ce qu'ils savent et qui ne savent pas peuvent y aller. C'est le chemin le plus simple que Dieu a créé. Et aller à l'intérieur. On va fermer nos yeux. On va y aller à l'intérieur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Te connaître, c'est ça. Plus tu t'habitues à parler avec lui, plus il va ouvrir ton intelligence à connaître la hauteur, la largeur, la profondeur, la grandeur de son amour. Amen. Plus tu le connais, il va te révéler la connaissance de sa volonté. Que dois-tu faire? Quand dois-tu faire? Je ne dis pas que je suis arrivé à la perfection, loin de moi, mais je suis un apprenti comme vous. J'ai appris à aller dans cette direction. De suite, à un clin d'œil, je peux y aller et je peux parler avec lui, lui dire mes peines, ma joie, mon bonheur, le remercier, lui être reconnaissant. Vas-y à l'intérieur, vas-y, je te conseille. Parle-lui. D'abord, commence par le remercier, t'avoir donné déjà la vie, t'avoir donné du temps, t'avoir donné une famille, un pays où tu peux manger, tu peux boire. Des petites choses, remercie-le. Tous les détails que tu as. Vas-y. Parle-lui. Parle-lui, Seigneur Saint-Esprit, glorifie Jésus. Qu'il vive des choses profondes avec toi, je te prie. Simple. À l'intérieur. Ne pense pas à autre chose. Dès que ta pensée va, reviens. Maintenant que tu lui as remercié, vas-y, parle-lui tes peines, des choses que tu n'arrives pas à avoir de solution. Mais je veux connaître ta volonté. Seigneur, ta volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle, si je veux connaître, je ne sais pas comment gérer cette histoire. Qu'est-ce que tu me conseilles, toi? Tu es mon meilleur ami. Tu es ce que j'ai rien d'autre. Tu es ma richesse. Tout ce que j'ai, c'est toi. Où veux-tu que j'aille? Qui pourra répondre à mes cris, Seigneur? Qui pourra être la réponse à mes peines, à mes douleurs? Il n'y a que toi. Tu sais tout. Tu sais tout et je te le dis de tout mon cœur. Parle-moi. Ne me laisse pas sans me parler. Vas-y, dis-lui ça. Dis-lui tes peines. Il le sait, il est au courant. Mais dis-lui avec foi. Dis-lui avec foi. Merci, mon Jésus. Merci, Jésus. Quand c'est la première fois, ce n'est pas évident. Mais ça s'apprend. Je vous donne 21 jours à le faire. Tu vas voir. Tu vas vivre autrement la vie chrétienne. Tu vas te délecter de cette relation, simple mais profonde. Merci Jésus. Toi le chéri de mon cœur, toi mon bonheur, ma vie, ma raison de vie ici-bas, où irais-je loin de toi? Que serais-je sans toi? Tout ce que j'ai, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Ma vie, ma santé, ma joie, c'est toi. T'aimer, voilà ma raison d'être ici-bas. Te faire plaisir, voilà ce que je souhaite jour et nuit. Que tu sois fier et heureux de moi. Voilà ma récompense, mon roi. Aide mes frères et mes sœurs à vivre cette profondeur de communion et de relation avec toi, toute simple, toute enfantine, mais simple, mais profonde. Je te prie, Jésus, d'aider ton peuple à rentrer dans cette dimension simple, à te connaître dans la simplicité de cœur. Et que tout ce qui s'oppose à ça, qui vient de l'enfer, soit lié dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Tout ce qui veut s'opposer à cette communion simple, tout ce qui veut leur voler cette relation simple, soit lié. Tout ce qui les fait raisonner, tout ce qui veut toujours discutailler à l'intérieur, soit lié dans le nom de Jésus. Je déclare, je les interdis ces démons planqués d'empêcher ton peuple de rentrer dans sa destinée. Cette destinée de communion simple avec toi. Merci d'aider ton peuple. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Donc, mets l'objectif de lui faire plaisir. Amen. Chaque fois, apprends à envoyer des SMS. Une idée te passe, tu dis bonjour Jésus. Tu sais, je t'aime Jésus. J'ai besoin de toi Jésus. Tu es ma réponse Jésus. Amen. Tu m'aimes Jésus. Je n'ai pas peur pour mon avenir Jésus. Tu es celui qui me guérit de mon passé, des choses injustes que j'ai vécues. C'est toi. Merci de me restaurer. Pour que je te sers sans distraction. Parce que les douleurs, les souffrances, le passé nous distraient. Nous vole la joie. Alors tu viens, tu dis, voilà, je te pose ça. Et tu parles avec lui, avec des simples mots. Je te garantis, tu sauras qu'est-ce que c'est la vie avec le Seigneur. Elle est si simple, elle est si profonde. Merci, mon Jésus. Et c'est à ta portée, mon ami. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir fait de moi ta demeure. Je suis devenu le palais du roi. Sens-toi libre en moi. Et tout ce qui s'oppose à toi en moi se taise dans le nom de Jésus. Et que tu m'apprennes à être en communion avec toi. Dans l'intimité avec toi. De vivre des choses profondes avec toi. Être une solution sur cette terre pour laquelle tu m'as envoyé. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, mon Père en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, sur la confession de leur bouche. Merci pour cette relation intime et simple qui s'entraîne et voir des réponses spectaculaires dans les choses qui n'ont jamais eu de réponse dans le passé, qu'ils voient des choses spectaculaires avec toi. Je te prie, Père, je sais que tu entends ma prière et que tu m'exauces. Je te bénis, je scelle tout cela et que le diable ne vole pas ce qui a été dit aujourd'hui dans les cœurs des uns et des autres, selon la mesure de foi que tu as mis dans le cœur de mes frères et sœurs. Offre-leur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.